Le psaume sous les étoiles. Chapitre 1. Retiré à Genève depuis 10 années, à la suite du mouvement des Cévennes, moi, Jean Pérobe, ai le propos d'écrire à la mémoire des êtres que j'aimais l'histoire de mes jours passés. Après tant de combats et d'aguets, d'horreurs et d'espérances, je suis parmi les nations comme une barque sur la mer. La vague la ballotte et l'adversité me secouent, et il me semble qu'en évoquant mes heures claires et joyeuses, violentes et passionnées, je reprendrai pied sur la terre ferme. Hélas, quand s'ouvre mon âme sur l'horizon des souvenirs, tout me revient à la fois. Je voudrais tout dire d'une phrase, et sans doute mon récit ne filera point toujours droit, prendra souvent la traverse. Qu'importe, condamné à l'exil, sans espoir de revoir ma terre natale, les rochers, les vallons, témoins de ma jeune vie. J'en ressusciterai du moins dans mon fort inviolé, j'en baiserai pieusement les chères images, et des larmes douces et brûlantes me soulageront. Vers la fin du mois de juin 1702, j'arrivais à Alès venant de Toulouse, où j'étais resté 4 années, chez le procureur du Parlement, Fauré-Blanc, dans l'intention de m'y appliquer au barreau. Reçu maintenant gradué pour être procureur escourt, je rentrai chez mon ancien maître, Jean-Raymond Baduel, seigneur de la Liquière, notaire royal à Alès, qui m'appelait pour faire le premier clerc et directeur des gens en sa boutique notariale. Débarqué par un clair matin au logis du soleil sur le bord du Gardon, je ne me lassais point de contempler notre vieille cité d'Alès dans son corset de murailles dorées par le temps, au-dessus desquels tranchaient brutalement les escarpes encore neuves du fort bâti en 1686 par les soins de l'intendant de Lamoignon de Baville pour tenir la ville en respect. Et quand j'eus franchi le pont vieux et que vers le coude de la rue d'Ambrésis, je reconnus les panonceaux de maître Baduel, le cœur me battit fort, car j'avais passé là 6 ans de ma vie, suivant d'abord les leçons des pères pour parfaire mes humanités, commencé à Sainte-Croix de Valfrancesque avec le bon curé Bastide. Puis maître Baduel m'avait pris en apprentissage et j'avais griffonné chez lui force registres, étudié les formulaires, rédigé des actes et j'avais fait aussi l'école buissonnière dans les rues et les prairies. J'avais joué aux boules à la courtine vieille et sur l'air des cordeliers qu'on nomme aujourd'hui la maréchale en souvenir du maréchal de Montrevel de sinistre mémoire. J'étais alors chez Baduel comme l'enfant de la maison, car, s'il était mon maître, il était aussi mon parrain. Il m'aimait beaucoup et je le lui rendais bien. Aussi m'embrassa-t-il chaudement dès qu'il me vit et appela toute la maisonnée. Noble damoiselle Guillemette, sa mère, issue de l'illustre famille des Borélie de la Roque-Servière, me reçut dans ses bras. La vieille baillesse Mion me vint au-devant et me baisa 3 fois sur les joues, selon l'us huguenot. Et j'accolai de bien bon cœur l'aînée des filles, Isabeau, ma grande amie, qui venait maintenant sur ses 22 ans et rentrée du couvent des Ursulines de Nîmes. Mais je restais encore en chancel, attendant quelqu'un qui ne venait point, quand damoiselle Guillemette, qui a l'esprit présent, s'en avisa la première. « Ce cadet espère la Florette. Elle n'est point ici, mon bon ami. Tu la verras dans quelques jours, au Montredon. » Auprès de son aïeul, Timothée Deleuze. Et en effet, j'attendais la Florette, la petite fleur du logis, la compagne de mes jeunes ans que ma mère avait nourrie dans notre masse rogée. Subitement, je revoyais par les yeux de l'esprit toute notre enfance sous les grands châtaigniers de la Valfrancesque en Cévennes. Je m'en allais des tours à poivrières de noble Timothée Deleuze, seigneur du Montredon, au pigeonnier du masse rogée où je suis né, à 1/4 lieue du château. Je gambadais sur les pelouses vertes à travers les bruyères et les fougères, et je m'arrêtais longuement au seuil de ma maison sur cette terrasse vaste que borde une murette couronnée de violiers et de passe-velours et d'où l'on découvre la vallée. J'y voyais ma mère Fermine filant aux rouets et ma sœur Nicole avec Florette qui cousait leur menue toile, toute nisse qu'elles étaient. « Ah, cadet, tu rêves donc toujours !» me dit à ce moment mon maître Baduel. Et voudras-tu m'écouter, pauvre songe faite? Tu sais pourquoi je t'ai fait venir. Tu es maintenant gradué, procureur escourt, bien enseigné dans le formulaire. Tu sais comment il faut écrire du mariage, les ventes, les arrendements, procéder aux transactions, cancellations, procurations et quittances. Or, il se fait temps que je me lève un peu le souci des grimoires. Toutes ces écritures à la fin me harassent. Elles tourbillonnent devant mes yeux comme des papillons. J'en suis excédé. Et voici que mon vieil ami, le mège, c'est-à-dire le médecin, Armassan, me conseille d'aller prendre l'air à la Liquière, longuement. Certes, j'irai là-haut sans me faire prier. Le père Amblard, mon métayer, tombe de vieillesse et le bien périclite. Le jardin se laisse envahir par les folles herbes, la rouvière par les taillis qui l'étouffent, les terres labourives manquent d'engrais, les oliviers ont le mal noir et le béal, à moitié ruiné, ne porte presque plus d'eau à la prairie. Il est temps que j'y aille un peu voir de près. Et puis, que te dirais-je, chasser le conil dans la garrigue de Méjane et le porc sanglier sur la montagne de Bouquet ne me déplairait point. Et vers la mi-septembre, je humerai volontiers l'odeur de mes muscats foulés quand on les verse dans la cuve. Donc, j'ai pensé à toi pour me remplacer en ma boutique notariale en attendant, ce qui ne tardera guère, que je te cède ma charge, ainsi qu'il fut convenu dès longtemps avec ton seigneur père, mon ami Jérémie Peyraube. Que Dieu le garde en son masse-roger. Qu'en penses-tu? Es-tu mon homme? Et faisons-nous pacte. Moi, je me sentais fort ému de bonheur, car la boutique de Maître Baduel était sans doute la première d'Alès, et en me la cédant, mon cher parrain comblait tous mes vœux, de connivence avec mon excellent père. Pour toute réponse, je me jetai dans les bras de Baduel, et nous fîmes pacte à touchement de main. Ma grande amie Isabeau dit alors: « Quel bonheur ce sera d'aller vivre aux champs. J'aime tant la Liquière, et tu viendras nous y voir souvent, mon ami Jean. » Elle sortit du cabinet de son père, et je l'accompagnai dans la grande salle. « Ma bonne Isabeau, lui dis-je tout de suite, parle-moi de Florette, je te prie. »« Ah, dit-elle, je savais bien que tu ne pensais qu'à Florette, et pourtant c'est moi qui t'écrivais le plus souvent à Toulouse, ingrat. » « Ma bonne Isabeau, je pense à toi autant qu'à Florette, tu le sais, je vous aime bien toutes les deux. » Mais pourquoi ta sœur est-elle toujours au Montredon ? Hé, ami, c'est ma souffrance. Tu sais que nous n'avons pas pu la garder au couvent des Ursulines à cause de sa santé. Et puis elle avait pris en aversion notre arrière-cousine, Madame d'Herboudouze, assistance au couvent. Elle disputait avec elle sur la religion, lui tenait tête, la poussait à bout. Je tremblais toujours qu'il n'arrivât quelque éclat. Maintenant, elle se dérobe de plus en plus à ses devoirs de nouvelle catholique. Elle ne peut plus vivre à Alès où il faut qu'elle aille à la messe. Elle n'est bien qu'au désert, là-haut, à chanter ses psaumes, et je redoute, hélas, qu'elle n'aille aux assemblées qui s'y tiennent et n'y soit massacrée quelques jours avec tant d'autres malheureux. Comment, on massacre encore les assemblées? Plus que jamais, mon ami Jean, et je prie Dieu chaque jour qu'il accorde enfin la paix à notre malheureux pays. Ses yeux se gonflaient de larmes. « Écoute, me dit-elle, tu es mon ami des premiers jours. » Tu es un frère pour moi. Je veux te dire toute ma peine. Cette Florette que j'aime tant, pour qui j'eus toujours une tendresse maternelle d'aînée, cette Florette qu'elle aussi me chérissait quand elle était petite. Maintenant, je la vois toute changée. Elle se détourne de moi à cause de la religion. Chaque jour, je lui deviens plus étrangère. Et je crois qu'elle me hait, Jean. Oui, véritablement. C'est pour moi une cruelle souffrance. » À ce moment, on annonça le docteur Armassan. Il dînait avec nous et me fit mille amitiés. « Tu arrives à la bonne heure, » dit Guillemette, qui entrait avec lui. « Nous aurons aussi mon cousin Peyreblanc, qui se fait vieux, le pauvre, et ne quitte plus guère son manoir décrépit de Saint-Hilaire. » Elle dit, et presque en même temps, « Noble Jacques de Borély, seigneur de Peyreblanc, propre fils du fameux Abraham, faisait son entrée solennelle. » Il était fort intimidant, vêtu comme au temps de Rouen, la figure encore toute rose dans sa superbe barbe blanche, avec des yeux profonds et perçants sous d'épais sourcils de neige. Il daigna me reconnaître et me demanda pourquoi je ne portais pas l'épée. C'était une plaisanterie traditionnelle en souvenir d'une querelle qui s'était jadis élevée en Valfrancesque entre mon aïeul, Élisée Peyraube, et Timothée de Leuze, seigneur du Montredon, beau-père de Baduel, au sujet de la terre noble du Rivet voisine du château et qui nous appartenait de père en fils. Timothée convoitait cette terre, et pour or ni pour argent, mon aïeul ne voulait la lui vendre. Et lorsque Élisée Peyraube venait au Rivet pour faucher ou abreuver la prée, Montredon, qui le guettait, ne manquait jamais de lui dire « Tête carrée, tête dure, tête de mule, Élisée Peyrambe, je te nomme et te parle. Te décideras-tu à me vendre ta terre ? Non ? Alors viens ici que je te sacre, seigneur du Rivet, terre franche de taille qui anoblit. Où donc est ton épée, baron ? À quoi mon bon aïeul répondait invariablement, sans s'émouvoir du tout. « Seigneur du Montredon, mon épée, je la garde à l'ombre et la fourbirai bientôt pour la parade des beaux dimanches, quand on aura rebâti les temples. » Allusion cruelle à l'abjuration assez prompte de Timothée de Leuze, et il se boudait, se chamaillait jusqu'à l'accueil des châtaignes, quand le souci d'enrôler une troupe commune de cossenards châtaigneurs les réconciliait. Après maints compliments de part et d'autre, on entra dans la salle du repas et on se mit à table. Isabeau récita le Bénédicité, Damoiselle Guillemette fit une prière en français et la conversation tomba presque tout de suite sur les affaires publiques. Tout le monde était d'accord sur ce qu'on cachait la vérité au roi. « Ah, le roi, dit Peyreblanque, pensez-vous qu'on lui dise jamais la vérité ? Ce noble prince est dans Versailles comme en une île escarpée où les sujets loyaux ne pénètrent guère, car les courtisans et les jésuites en gardent trop bien les abords. » « Et sans que le roi s'en doute, dit Baduel, notre province tous les jours se dépeuple. Les nobles et les bourgeois s'en vont, les artisans chôment, il ne reste plus que les paysans qui s'accrochent au sol et ne veulent pas le lâcher. » « Oui, ajouta Peyreblanque, les paysans seuls maintiennent la race de notre terre. Mais l'intendant Lamoignon de Baville les ruine par les logements en pure perte, les exaspère par les exactions et les mauvais traitements, rêve certainement de les exterminer jusqu'au dernier. » Ce Lamoignon incarne le génie du mal. Homme de tête et de main, il mène implacablement ce pays à la ruine. Personnellement, il désapprouva la révocation. Seulement, l'ambition le mine. Il faut qu'il fasse son chemin. Peu lui importe si ce chemin est bordé de potence. « Il est certain, dit alors le docteur Arnassant, que notre situation va de mal en pis. Notre peuple ne demandait qu'à travailler en paix. Pendant près d'un siècle, tout le monde avait vécu en bonne harmonie et les mariages mixtes entre les deux religions se faisaient toujours plus nombreux. Puis, les missionnaires sont venus, qui ont rallumé les vieilles haines. Sans compter, ajouta Peyreblanque, que les plus fermes soutiens du trône, nos parlements, nos chambres de justice, nos états, ne sont plus aujourd'hui que des fantômes. Le parlement enregistre les édits par ordre et, s'il refuse, on l'exile. Quant à nos états, on ne les assemble que pour la forme, on leur demande des subsides, toujours plus accablants, et s'ils rechignent à les voter, Baville passe outre, élève les tribus à force ouverte comme en pays conquis. » Damoiselle Guillemette dit alors, « À qui la faute, mon cousin, si on nous traite en esclaves et notre terre en pays conquis ? À qui la faute, je vous le demande, sinon à nous-mêmes, à la noblesse du pays ? Notre oncle, le grand Roqueservière, compagnon d'armes de Rouen, nous avez prédit les calamités qui nous accablent. J'étais bien jeune, mais je m'en souviens comme d'hier. Il prévoyait cette noblesse d'aujourd'hui qui déserte ses terres, tourne les yeux vers la cour et renie le devoir suprême que Dieu lui assigna de défendre ses peuples. Ils s'en vont à Versailles, où ils quêtent et mendient. Les plus vils, pour qu'on ne doute pas de leur conversion, se signalent par leur férocité lorsqu'ils persécutent leurs anciens frères. Comme cet abominable vicomte de Saint-Cosme, autrefois député de nos églises, qui maintenant là-bas, vers Nîmes, terrorise ses coreligionnaires d'hier, surprend les assemblées, les disperse à coups de fusil, fait rompre vifs les prédicants, pendre les pauvres filles qui s'imaginent de prophétiser, comme elles disent. » Guillemette était demeurée la vieille huguenote irréductible. Dans la ville, on osait trop l'inquiéter à cause de la religion, car le notaire Baduel, son fils, suivait régulièrement les offices, jouissait d'une grande influence. Et tout suspect qu'ils fussent, les Roqueservières avaient toujours, comme on dit, le bras long. Puis Guillemette était si bonne et charitable que tout le clergé de la paroisse la portait sur le bout du doigt. Elle avait particulièrement subjugué le curé de Saint-Vincent, Foucard, fils d'un de ses anciens métayers, et tout dévoué à sa famille. Elle le comblait de dons pour ses pauvres et le régalait d'excellents dîners, au cours desquels j'entendais parfois d'extraordinaires discussions théologiques. Un de ses gros chagrins était que sa petite fille, Isabeau, fut toute changée par le couvent où il avait bien fallu la mettre. La fillette avait été tout de suite conquise par ce culte romain si poétique dans ses formes extérieures. Sensible aux images et aux merveilles, la petite Isabeau s'extasiait devant la Vierge, dont le culte lui procurait de longs ravissements. Aussi Guillemette se félicitait-elle que la santé longtemps chancelante de la plus jeune, Florette, l'eût tenue, elle du moins, éloignée des repères d'idolâtrie, et qu'elle eût vécu presque tout son jeune temps dans la Valfrancesque auprès de son aïeul Timothée Deleuze, vieillard soutenu dans sa foi chancelante par sa sœur Idolette, âme fidèle entre toutes. Ce jour-là, ce fut le docteur Arnasson qui donna la réplique à Guillemette. « Hélas, madame, dit-il, il n'est que trop vrai, l'éclipse de notre noblesse, l'effacement ou la fuite de notre bourgeoisie sont des mots non pareils. Que voulez-vous que devienne le peuple maintenant, qui n'a plus ses chefs naturels, ni ses ministres, et que, par un aveuglement incroyable, nos puissants ont remplacé presque tous nos vieux curés par des missionnaires étrangers au pays. Ces curés, pour la plupart, étaient de chez nous. Ils connaissaient leurs compatriotes, nouveaux convertis depuis l'enfance. Ils répugnaient à leur appliquer à la lettre les ordonnances qui furent arrachées pour notre ruine à Sa Majesté et qui, pour dire la vérité, sont inapplicables, à moins qu'on ne veuille détruire la province jusqu'aux racines des arbres. Au lieu que les missionnaires ne connaissent personne, ignorent les coutumes, les besoins et presque toujours le langage du pays, s'en tiennent à la lettre des ordonnances, poursuivent, emprisonnent, torturent une population de paysans bien inoffensifs, les poussent aux pires extrémités. Quand on sait, par exemple, à quelles inquisitions, à quelles souffrances l'abbé du Sheila, missionnaire, soumet les habitants des Cévennes, on est stupéfait de la patience de ces pauvres gens, et il n'est point douteux que s'ils avaient un chef de la noblesse, ils se soulèveraient contre une pareille tyrannie. Heureusement, pour la paix publique, il n'y a plus de Rouen, et ils n'ont pas de chef. Damoiselle Guillemette l'interrompit. « Pas de chef, dit-elle. À vos vues d'homme, peut-être, mais il faut regarder plus haut, Maige Arnasson, et ne pas oublier le chef suprême, qui peut faire un miracle et se manifester à eux. Qui vous dit que ces malheureux qui prétendent prophétiser ne sont point véritablement inspirés du Saint-Esprit ?»« Ah, madame, répondit Arnasson, permettez-moi de n'en rien croire. Ces malheureux sont des malades, rien d'autre, victimes d'une véritable épidémie qui s'est témoignée d'abord dans le Bas-Dauphiné, vers Dieulfi et la Valdrome. Ces inspirés tombent en extase, gonflent leur poitrine, roulent les yeux, récitent de vieux lambeaux de sermons avec des gestes, des cris, des sanglots. La faculté de Montpellier leur a donné le nom de fanatiques, et je reconnais d'ailleurs qu'elle n'a rien trouvé pour les guérir. Mon bon maître dit alors, « Malade ou non, je dois confesser qu'une de ces fanatiques, puisque fanatique il y a, me fit l'an dernier une belle peur. Je me trouvais au château du Miral, chez mon cousin, près du pont de Montvert. Une nuit, quand tout dormait, on entendit devant le château un vacarme du diable. Les chiens jappèrent avec rage, puis tout subitement se turent. Je me levai et regardai par la fenêtre. Il faisait un temps glacial. De gros nuages roulaient dans le ciel, masquant puis découvrant la pleine lune, là-haut sur la montagne toute noire. À la faveur d'une éclaircie, j'aperçus tout à coup comme un fantôme de femme qui sanglotait dans la cour. Une fenêtre du château s'était ouverte. La voix de mon cousin se fit entendre. « Qui êtes-vous » dit-il. « Et que demandez-vous » Alors, rauque et terrible, le fantôme cria « Ouvrez la porte au chante-peu de foi. Ouvrez la porte au messager de Dieu et faites pénitence. Je vous le dis en vérité, un temple d'or et de feu descendra du ciel dans la Valongue. » Mais vous ne serez pas digne d'y entrer, car vous avez avalé le basilic venimeux de Babylone et baisé les sandales de Baal, sépulcre blanchi. Ouvrez-vous, le jour de la colère est proche. » À ce moment, j'entendis ma petite cousine Sibylle qui disait « C'est la bichonne, père, je reconnais sa voix. C'est ma pauvre sœur de lait, Françoise Bresse, qui nous a quittés le mois dernier pour s'en aller fanatiser. Il faut lui ouvrir, père. Elle a froid, elle a peut-être faim. Sa mère Maletta. » On fit entrer la bichonne, car c'était bien elle. Tout le monde descendit à la cuisine du château pour la voir, et son extase ayant cessé, elle fut comme une personne naturelle, mangea, but, s'inquiéta de tous, et elle pleurait en embrassant Sibylle à nous émouvoir tous. « Reste avec nous, lui disait Miral. Grande niaise, et ne t'en va plus battre l'estrade. Nous aurons ta grâce de monsieur l'abbé du Sheila. tu n'as qu'à promettre de ne plus prophétiser, car tu vois bien, Nigode, que toutes ces prophéties te sèchent le foie et n'appointent pas un fuseau. » Et, véritablement, la malheureuse, qui ne fut jamais fort belle, paraissait maintenant un spectre, tant on la voyait maigre. Mais prière ni menace, rien n'y pure. Elle décampa à la prime aube. Et depuis, la pauvre imbécile, on l'a pendue, par jugement au mois de janvier de cette année-ci, sur la place du pont de Montvert, en face de sa maison natale, au ronflement enragé de quatre tambours qui l'empêchèrent de parler au peuple consterné. Voilà où l'on menait ses prophéties. Mon maître Baduel se tut et un silence régna. Puis le repas venant à sa fin, toute la compagnie s'en fut dans le jardin, où la conversation reprit son cours. Le maître Jarnassan parlait tout ému d'une assemblée qui s'était tenue mercredi passé dans la paroisse de Peyremal à 10 heures du soir. Le sieur Coste, capitaine de bourgeoisie, s'en étant approché, avait ouvert le feu sur les assistants, tué le prédicant avec une 60aine de personnes et ramené 20 prisonniers. Isabeau me dit « Viens-tu, Jean, te promener dans les allées ? Je suis tout étourdi d'horreur et veux me reposer un peu. » Je la suivis. Le jardin de mon maître est un des plus jolis parmi les rares jardins bourgeois de la ville, avec son vieux puits sous les figuiers, ses capucines et ses roses, et les deux grands micocouliers qui portent si belle ombre en été. Je m'assis sur un banc auprès d'Isabeau. Je la trouvai fort embellie avec sa figure fine de médaille, ses grands yeux sombres, sa bouche aux lèvres chaudes et son abondante chevelure noire qui lui faisait un casque de reine. Elle me parla beaucoup de son couvent, des joies qu'elle y goûtait, puis se tournant vers moi, « Et toi, Jeannot, tu as certainement confirmé ta foi romaine dans cette grande Toulouse où l'hérésie n'habite plus. Dis-moi que tu pratiques le vrai culte, sincèrement, de tout ton cœur. » Je restai un moment sans répondre, tant le propos me fut poignant. « Ma bonne Isabeau, dis-je enfin, faut-il que d'un mot tu rouvres les vieilles blessures et ravives les souffrances qu'on veut oublier ? N'avons-nous pas assez pâti depuis notre enfance de toutes ces querelles pour la religion ? Et puisqu'il nous a valu tant de larmes, ne devons-nous point oublier maintenant cet éternel débat ? Nous étions ceux de la religion prétendue réformée ? Nous sommes les nouveaux convertis, et je ne pense pas que le bon Dieu ait changé pour nous. Il ne me coûte aucunement d'aller à la messe, et je regrette qu'on ne laisse point aller paisiblement aux assemblées ceux qui ont envie d'y aller. Je ne crois pas que Dieu approuve qu'on les en empêche en les massacrant. Nos anciens curés ne le croyaient pas non plus. « Alors, interrompit Isabeau, tu n'es plus rien. Tu es un pauvre libertin. Tu es de ces tièdes que le Seigneur vomit de sa bouche. Tu vas à la messe, mais tu irais aussi bien aux assemblées. Quelle horreur, mon Dieu, mais tu ne sais donc point qu'il faut choisir, qu'aucune compromission n'est possible entre l'erreur et la vérité. » La belle fille s'était dressée devant moi, me regardait avec épouvante. « Tu n'as donc pas peur, malheureux, des tourments de l'enfer ? Comme je vais prier pour toi, la médiatrice adorable, la sainte mère du Sauveur. » « Écoute, Isabeau, lui dis-je, tu es la meilleure des créatures, et nous nous connaissons si bien depuis si longtemps. Je ne veux pas que tu aies de la peine, et puissais-je être toujours digne de tes prières. Mais comment feras-tu toi-même dans cette vie ? Que vas-tu devenir au milieu des tiens qui sont tous restés plus ou moins huguenots ? Le malheur des temps nous impose une grande prudence, et en toute chose de ne pas aller au-delà du nécessaire. Nous voici les convertis du roi. Peut-on nous demander davantage ? Et devons-nous troubler nos anciens qui, ne pouvant renoncer à leur vieille religion, n'en furent pas moins de très braves gens ? Vois-tu, la religion est une chose, la vie une autre. Et il faut vivre. Comment vivras-tu, pauvre Isabeau ? Elle leva au ciel ses magnifiques yeux et dit avec exaltation « Je vivrai au couvent ». Un sentiment inexprimable m'agitait, que je n'essayais point de me détailler à moi-même, mais dans lequel certainement dominait une pure tendresse fraternelle. Et j'étais pénétré d'horreur à la pensée que tant de jeunesse et de beauté pût s'engloutir dans un cloître. Je lui dis aussitôt « Mauvaise vie, sombre destin, as-tu le droit de t'enfermer ainsi, petite Isabeau ? Chère Isabeau, réfléchis bien, renonceras-tu aux joies et aux souffrances de la vie ? Crois-tu que vraiment Dieu le veuille ? Tu ne fermeras pas les yeux de tes vieillards, et nul ne t'aimera, Isabeau. Tu ne connaîtras pas ces petites mains d'enfanson qui caressent le sein des nourrices, ni l'étreinte loyale d'un époux bien-aimé. » Elle fondit en larmes et se rassit près de moi. Ne parle pas ainsi, dit-elle. Jean, mon ami, ma peine est grande et ne l'augmente point. J'ai des chagrins profonds que je ne saurais dire à mon confesseur même, car ils n'ont pas de forme précise et ne se peuvent exprimer. Je suis tellement seul ici-bas. Et toi-même, Jean, toi qui fus mon ami le meilleur, je te vois pareil à ceux qui m'entourent. La grâce de Dieu ne t'a point touché, et voici que tu me reprends et condamnes sans même que tu aies encore lu en moi. » Je lui pris les deux mains, la regardant droitement dans les yeux, et son regard se lia au mien, confiant et pur. Je ne pouvais supporter, sans déchirement, qu'elle pleurât ainsi, qu'elle eût un chagrin, où je sentais bien que je ne pouvais rien. Je me rappelais tant d'autres heures où je l'avais vue triste. Elle avait toujours été une fillette un peu sauvage, renfermée, comme disait sa grand-mère. Au Montredon, elle s'isolait parfois dans quelques recoins du parc, et on ne savait à quoi elle pensait. J'étais son grand ami. À moi seul, elle disait, enfant, tous ses petits chagrins. Aujourd'hui, je la sentais si malheureuse, si désemparée, que j'étais profondément ému. Mais, cependant que je la consolais de mon mieux, voici qu'une rumeur croissante venait de la rue. On entendit des tambours battre. Le mège harnassant prenait congé et m'appela. « Viens-tu, Jean Peyrobe ? Ce sont des condamnés pour la religion qu'on mène à Anduze. Nous pourrons les voir passer de la terrasse de Jean de Lubac, le facturier de laine. » Je sortis avec le docteur. Jean de Lubac habite au coin de la rue Saint-Vincent, à l'entrée de la place de la cathédrale qu'il nous fallut traverser et qui, déjà noire de monde, bruyait sourdement comme une chaudière de lessive au moment qu'elle va bouillir. Sur la terrasse du facturier de laine, disposée à mi-soulier ou entre sol à arcade, une nombreuse compagnie avait pris place et des propos volés, hâtifs de bouche en bouche. Le présidial de Nîmes a jugé les prisonniers de l'assemblée de Peyremal avec une quarantaine d'autres qui attendaient leur tour. Connaît-on les sentences ? Un des commissaires du présidial aurait dit à Jean de Tourtoulon que les hommes allaient tous aux galères et que les femmes seraient rasées, fouettées et mises dans la tour de Constance ou au vieux château de Carcassonne. Est-ce qu'on peut savoir qui vous dit qu'on ne les mène pas à sept ? On les embarquera pour les îles, et puis au large, on les fera boire à l'entrée, comme d'habitude. En entendant ces mots, je frissonnais. Ainsi l'horrible légende et les noyades en pleine mer couraient toujours. Depuis plus de 20 ans, elle passait de l'un à l'autre, terrifiante, se glissait dans les masses, aux veillées d'hiver, se propageait sur les places publiques et les champs de foire. Elle était le cauchemar, la grande épouvante de toute une race qui bravait pourtant sans frémir la potence, la roue, le bûcher. Mais vers le haut de la place, du côté des cordeliers, un remous se faisait dans la foule et le cortège apparaissait. Des soldats allemands le précédaient, écartant les curieux avec rudesse et criant dans leur jargon comme ils pouvaient « Place et silence à tous, de par le roi !» Nous vîmes les prisonniers liés deux à deux, encadrés par des fusiliers. Il y avait là une 60aine de malheureux, surtout des vieillards et des femmes dont quelques-unes portaient des nourrissons à la mamelle. Tous étaient des gens de la terre, paysans, journaliers, la plupart connus à Alès, Ave et Issurte, sous leurs vêtements misérables, ils marchaient en relevant la tête. Un frémissement de pitié et d'horreur passa sur la multitude. Malgré la défense faite, des voix s'élevaient plus haut que le bruit des tambours. « Pauvre Saubernès !» cria quelqu'un. « Que Dieu te protège !»« Voyez !» disait un autre. « Ils ont pris le vieux pupille, Bayle de l'Arboussas. N'est-ce point Galissard de Combredonne qui est attaché avec Treilly, le quart d'heure de porte ?»« Silence ! Silence !» glapissaient les soldats. « Rebelle au roi qui sera pris criant !» Le commandant de l'escorte, un capitaine à cheval, allait d'un bout à l'autre de la colonne et paraissait un peu troublé. « Serrez, serrez » criait-il, « allongez le pas !» Soudainement, et sans que rien le fît prévoir, le vieux pupille entonna un psaume de Clément Marot. « Ô Seigneur, que de gens, à nuire diligents, qui me troublent et grèvent, mon Dieu, que d'ennemis qui sont aux champs se sont mis et contre moi s'élèvent !» Ce fut comme une traînée de poudre qui prend feu. De toute la foule monta aussitôt la clameur du psaume. Le commandant fit arrêter le cortège. Les fusiliers se précipitèrent sur les condamnés qui chantaient, les frappèrent de leurs crosses. Je vis tomber la vieille Saubernès qui s'effondra la tête ensanglantée. Mais nonobstant coups et défenses et dominant le roulement des caisses, le psaume formidable remplissait les airs. « 100 000 hommes de front craindre ne me feront !» À ce moment, les tambours se turent et les fusiliers chargèrent leurs armes. Le commandant cria « Dispersez-vous, je fais tirer !» Et l'on aperçut tout à coup, dévalant à la course la baïonnette au bout du fusil, la garnison du fort qui, par la rue des Cordeliers, se dirigeait vers les jardins de la cathédrale dans l'intention évidente de cerner la place. Ce fut alors une fuite éperdue. On ne vit plus que gens courant, se bousculant, se piétinant. En un clin d'œil, la place fut vidée. Mais sous les coups que lui assénait un grand sergent, le vieux pupil chantait encore. Et je l'entendis qui psalmodiait à voix de fantôme « Viens donc, déclare-toi pour moi, mon Dieu, mon roi, qui, de buff, renverse mes ennemis mordants et qui leur rompt les dents et leur gueule perverse. » Puis, tout assommé, il tomba sans mouvement. À la hâte, nous quittâmes alors la terrasse de Jean de Lubac et je courus tout pantelant jusqu'à la maison de mon maître Baduel, où l'on me mit au lit, grelottant de fièvre.